Hello, c'est Audrey. Alors, avant que tu puisses écouter ton épisode, je voulais te dire qu'en ce moment, on célèbre l'épisode 150 du podcast Murmuricain. Et pour l'occasion, je t'ai concocté un quiz bien sympa pour tester tout ce que tu connais déjà du bien-être équin. Grâce à ce quiz, tu vas pouvoir te rendre compte que tu connais énormément de choses, et certaines questions sont aussi là pour te faire réfléchir. Mais pas de panique, à la fin du quiz, tu pourras télécharger toutes les réponses aux questions, accompagnées d'une réflexion sur le sujet. Le quiz est disponible dès maintenant sur le site internet murmure-animal.com/quiz. Quiz. Avec un seul Z. Je le répète encore une fois, murmure-animal.com/quiz. J'espère que ce quiz sera aussi divertissant qu'enrichissant et je te souhaite une bonne écoute de ton épisode. À très vite! Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Montaigne du conte Un Poney Jaune qui va nous raconter ses aventures avec Hoquet, son criolo de 21 ans. Bonjour Montaigne.
Bonjour, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast.
Alors Montaigne, je te propose, même si je viens de te faire une petite présentation, je te propose de te présenter et de présenter aux auditrices qui ne te connaîtraient pas. Qui tu es, qui est ton cheval et ce que vous faites ensemble.
Ok, alors ça commence bien. Je m'appelle Montaigne, j'ai 26 ans, cavalière depuis presque 21 ans maintenant.
Ah oui.
Et voilà, j'ai commencé comme beaucoup de cavaliers en club. Et c'est en club que j'ai rencontré Hoquet, donc qui était un cheval de club qui, comme beaucoup de chevaux de club d'ailleurs, n'aimait pas trop la vie qu'on lui avait prédestinée. Et en fait, ça a été un coup de foudre, enfin un coup de foudre un peu tardif plutôt, parce qu'au début, c'était plus le coup de foudre inverse où j'avais peur de lui, plutôt qu'un élan d'amour envers lui. Et finalement, avec mes parents, on a décidé de l'accueillir dans la famille et de prendre soin de lui au maximum avec tout l'amour qu'on avait à lui donner et puis toute la bonne volonté aussi du monde que j'avais à mettre pour prendre soin d'un cheval. Sauf que j'étais toute jeune et j'y connaissais pas grand chose parce que je me suis très rapidement rendu compte que quand t'es cavalier de club, même si tu montes à un niveau galop 6, t'as pas du tout les clés pour gérer un cheval au quotidien, pour prendre soin de lui. Tu t'apprends sur le tas et quand on apprend sur le tas, on fait des erreurs. Et il y a certaines petites erreurs, ou plutôt grosses erreurs de temps en temps, qui pourraient être évitées si on avait un peu plus de connaissances, un peu plus d'informations, et un peu plus d'autonomie en tant que jeune cavalier. Voilà. Donc moi, je partage mes découvertes sur le cheval, justement, pour un peu sensibiliser, pour informer les cavaliers de tous horizons, sur le cheval, sur ses besoins, sur ce qu'il est possible de faire, sur aussi une philosophie que perso j'ai adoptée et qui est l'adaptation à son cheval, à chaque individu.
Donc ça fait, tu t'as dit que tu avais eu Hoquet relativement jeune, ça fait combien de temps que Hoquet partage ta vie?
Ça fait maintenant 10 ans à peu près que Hoquet partage ma vie. Ouais. J'avais 16 ans quand il a rejoint la famille.
Ouais, donc très jeune.
Oui, très jeune, très insouciante, pleine de rêves, mais finalement, les montagnes se sont dressées face à moi. Et voilà.
Oui, et puis maintenant, du coup, tu partages sur ton compte, comme tu dis, toutes tes découvertes, toutes tes montagnes que tu as gravies, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, je me dis ce que je découvre moi et qui m'a servi, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, autant le partager.
Oui.
Si ça sert pas, ça sert pas. Si ça sert, tant mieux.
Si ça sert pas, de toute façon, ça aura été partagé et les gens ne le liront pas.
Voilà.
Ou ça leur rentrera par une oreille et ça ressortira par l'autre. Mais c'est vrai que je pense que ton compte est utile à beaucoup pour se rendre compte qu'on peut prendre soin de son cheval autrement.
Oui.
Et avoir une autre équitation avec son cheval.
Oui, en fait, voilà, moi, je prône pas une discipline ou une autre, ou une méthode ou une autre. De ce que j'ai pu apprendre avec mon cheval, c'est qu'il y a plein de méthodes, qu'il y a, en fait, un monde. Le monde du cheval, ça s'appelle le monde du cheval, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'idéologies, beaucoup de méthodes, et qu'il y a certaines choses qui vont marcher avec un cheval, qui marcheront pas avec d'autres, qui vont correspondre à l'un mais pas à l'autre, et qu'en fait, notre job de cavalier, c'est de s'adapter à chacun et faire en sorte de créer une entente en trouvant des compromis. Et pour trouver ces compromis, je pense qu'il faut, oui, savoir s'adapter et savoir être curieux de ce qui se fait, de tout ce qui se fait finalement.
Et curieux de ce que notre cheval peut nous apprendre.
Mmh.
Et du coup, ok, t'as décidé de t'apprendre une leçon il y a à peu près un an, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en fait dans votre vie il y a un an?
Oui, il y a un an, comme tous les mois de février à peu près, je faisais vacciner au quai pour je vais jamais y arriver.
Le
Je faisais
vaccin classique, grippe, tétanos, enfin.
Oui, voilà. Oui, je faisais vacciner au quai pour son vaccin grippe tétanos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a fait une gonfle qui, au début, ne me semblait pas forcément anormale, puisqu'il avait toujours eu des petites gonfles après chaque vaccin, mais c'était jamais très handicapant. Et là, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il n'arrivait plus du tout à baisser la tête pour manger au sol.
Ah oui, même
Ouais.
baisser la tête, c'était impossible. C'était pas juste
Ouais.
latéral. C'est vrai que
Non.
souvent, les chevaux, après le vaccin, quand on injecte dans l'encolure, ils ont un peu de mal à plier l'encolure de droite et gauche. Mais lui, c'était vraiment haut et bas aussi.
Ouais, il
Ah
n'arrivait
ouais.
plus à manger au sol, donc ce qui est plutôt embêtant pour un cheval quand
Oui, quand même.
même. Voilà. Et ça m'a tout de suite interpellée parce que bah finalement ça l'handicapait fortement. Et du coup j'ai appelé ma vétérinaire qui au début ne s'est pas trop inquiétée parce que c'était déjà arrivé à plusieurs chevaux qu'elle suivait. Sauf que moi, ça, enfin, pour le cas d'Oké, ça a duré un petit peu dans le temps. Ça a duré plus d'une semaine où il n'arrivait plus à manger. Donc on lui mettait le foie en hauteur, mais bon, c'est pas l'idéal. On lui a fait on a testé ce qui était antibio, anti-inflammatoire, et rien ne faisait passer la gonfle et rien ne lui repermettait de manger correctement.
Donc la gonfle ne diminuait même pas si c'était sous anti-inflammatoire ou antibiotique.
Il y a eu un moment où on a cru qu'elle diminuait,
Mmh.
et en fait, c'est revenu plus gros.
D'accord.
C'est revenu plus gros et plus dur, en fait. C'était même pas mou, c'est ça le truc, c'est que c'était pas mou, on sentait pas de liquide à l'intérieur. Et du coup, on a cherché, on a fait des échographies, donc toujours aux écuries, hein, on n'avait pas encore bougé le cheval. Ça, c'était avec ma véto habituelle. Et elle était un peu, elle savait pas trop ce qu'il en était, donc elle a contacté des confrères, mais elle n'avait pas plus d'infos que ça sur ce qui pouvait vraiment être la cause concrète. Bon, il y avait un sous-jacent, on pensait forcément au vaccin.
Il y avait quand même un petit indice, mais bon.
Voilà, on n'avait pas plus d'infos que ça, en tout cas sur comment régler le problème et gérer les symptômes, quoi. Donc finalement, au bout de, je crois, 3 ou 4 semaines, on a fini par conclure qu'il fallait aller en clinique.
Pendant 3 ou 4 semaines, il pliait toujours pas la tête vers le bas. Il arrivait
Ouais.
toujours pas à manger correctement.
Non, il
D'accord.
mangeait pas
Ça fait
correctement.
long, ouais.
Ouais. Et du coup, ouais, on a décidé de l'emmener en clinique Veto, qui était à peu près 1 heure de chez moi, parce que ma Veto, qui a essayé de faire une ponction, pour au moins essayer d'analyser ce qu'il y avait à l'intérieur, s'est rendu compte que quand elle mettait l'aiguille, il n'y avait rien qui sortait, quoi.
Il n'y avait ni de
Non.
sang, ni de pus. Normalement, c'est du
Ouais.
pus qui sort mélangé à de la lymphe
Ouais.
et à du
Et
sang.
là, il n'y avait rien du tout. Du coup, elle a fait, ouais, là, ça commence à être un peu bizarre. Donc, pas le choix. Va falloir aller en clinique avec des infrastructures dédiées pour aider peut-être sans doute des professionnels qui ont plus l'habitude de cas comme ça pour essayer de gérer le problème.
Parce que elle, du coup, n'avait jamais eu de cas comme ça, ou en tout cas, elle n'avait pas les infrastructures pour.
C'est ça, elle n'avait pas les infrastructures et puis elle n'était pas bien sûre non plus de ce qu'il y avait à régler.
Ok.
Donc, il valait mieux faire ça on va dire, au propre et non pas dans des écuries, faire ça plutôt dans un milieu stérile et voilà, adapté.
Oui, parce que c'est vrai qu'un abcès suite à un vaccin, ça peut s'opérer à la maison aussi, enfin dans l'écurie, mais c'est vrai que si elle ne savait pas ce qu'il y avait derrière...
Oui, c'est ça. Donc du coup, on l'a emmenée en clinique et effectivement, on s'est rendu compte avec les autres vétos, qui se sont mis d'ailleurs à deux sur le cas du cheval à l'examen, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bel abcès, enfin un double abcès coqué, un intramusculaire, donc vraiment dans le muscle, et qu'il fallait aller creuser le muscle pour choper l'abcès et faire écouler ce qu'il y avait finalement bien plus profondément, quoi.
D'accord, parce qu'en fait, du coup, ta vétérinaire a fait une première ponction, mais qui était en fait pas assez profonde pour atteindre vraiment le pus.
Ouais, elle arrivait pas. Et puis, c'était vraiment bien coqué, donc c'était assez...
Elle n'arrivait pas à percer. Ouais.
Donc, il fallait aller chercher bien, bien plus loin, finalement, dans l'occlure.
Et du coup, vous êtes allé donc dans cette clinique, ils ont trouvé la cause de la gêne de hoquet, et ils l'ont opéré.
Oui, ils l'ont opéré, ça a duré, je crois, 45 minutes. Je ne suis pas restée pendant l'opération, parce que je suis une petite nature. Enfin, quand il s'agit de mon cheval, je suis une petite nature.
Non, mais c'est intéressant aussi de savoir, enfin, on n'est pas toujours obligé de rester pour les opérations. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui le font que nous, on est obligé de le faire.
Ouais. Oui, oui. Par contre, ce qui est anecdotique, mais qui me fait toujours sourire, c'est que le transporteur que j'avais... j'allais dire employé, mais c'était mon employé, mais à qui j'avais fait appel pour le cheval. Le transporteur, ça l'intéressait fortement. Donc, il est resté avec mon cheval pendant l'opération. Et c'est lui qui m'a donné des nouvelles en premier en me disant, ah oui, apparemment, il a une peau de rhinocéros.
D'accord.
Voilà. Voilà. Donc, j'ai appris par la même occasion que j'avais un poney rhinocéros. C'était très intéressant. Mais, finalement, l'opération s'est bien passée. Ils m'ont rassurée sur le fait que ça devrait bien se résorber par la suite.
Mmh.
Et je l'ai laissé en observation là-bas 3 jours, je crois.
Ouais.
Quelque chose comme ça. Je suis venue le récupérer au bout de 3 jours. Et en fait, au bout de 3 jours, ce qui m'a un peu déçue finalement en post-op, c'est que j'avais pas du tout de vétérinaire pour m'accueillir et m'expliquer comment faire les soins post-op.
Et qu'est-ce qui s'était passé? Enfin, on t'avait expliqué quand même ce que c'est.
On m'avait quand même expliqué que c'était, oui, je l'ai pas dit, mais c'était un abcès stérile en fait. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que c'était stérile. Donc il y avait un liquide, mais on n'a pas trouvé de bactéries spécifiques ou voilà. Ça reste un petit mystère malgré tout au fond.
Donc du coup, tu as vu le vétérinaire après l'opération, mais le jour où t'es venue récupérer, ok, il y avait personne.
Ouais, il y avait personne pour m'expliquer. Enfin, il y avait que l'assistante véto à l'accueil qui m'a dit oui, mettez un petit peu de bétadine, voilà. Alors que le cheval, il avait quand même un trou de la longueur de mon doigt, donc on va dire 3-4 centimètres
de profondeur.
De profondeur dans l'encolure. Donc c'est déjà ça, c'est impressionnant. Et puis on se dit mais comment on traite ça? Enfin, comment on en prend soin pour que ça s'infecte pas, que ça bourgeonne pas, etc.
Oui, et puis 3-4 cm, c'est que du coup, on n'était pas sur quelque chose de 2 cm de diamètre en largeur non plus. Enfin, en surface.
Ah oui, bah oui, le cheval, s'il se couche dans son box, il peut se mettre de la paille dedans, de l'urine, du crottin. Enfin, voilà, pour garder ça propre, c'est pas forcément évident. Et on m'a pas expliqué grand chose. Et je ne suis pas infirmière de métier, donc je n'ai pas forcément les automatismes. et donc, on m'a fait repartir.
Je t'ai dit, entre, et puis voilà.
Ouais, on m'a fait repartir avec mon cheval comme ça. J'avais eu cette appréhension quand même à me dire, ça me turlupine un peu, quoi. Et surtout qu'on était dans l'entrée de l'été avec les mouches qui reviennent, tout ça, le cheval, il sort, il se roule, enfin, ça me posait souci, ces soins, comment j'allais faire pour garder ça propre et que ça se referme bien. Donc, j'ai recontacté ma première vétérinaire, donc ma vétérinaire habituelle, qui m'a dit, mais c'est pas possible de laisser ça comme ça. Effectivement, il y a des soins à faire, il y a des mesures à prendre pour que ça cicatrise au mieux. Donc, sur le coup, elle m'a bien porté secours, elle m'a montré comment faire, elle m'a montré tout le protocole de soins pour que, finalement, la cicatrisation du cheval et sa remise en état se fasse bien, quoi.
Ouais, donc c'est en fait ta première vétérinaire qui ne savait pas en fait ce qu'il avait exactement et qui n'avait pas forcément les compétences pour l'opérer sur place, qui a du coup référé à un autre vétérinaire. C'est elle qui après a fait un suivi ouais. post-opératoire et qui a eu une bonne pédagogie pour t'aider à soigner, ok.
Ah oui, totalement, oui, oui, oui. Et elle a vraiment été très présente, elle m'envoyait souvent des messages pour savoir comment ça allait, comment ça se passait, et en ça, c'est génial d'avoir un suivi comme ça, enfin, de se sentir encadrée, finalement.
Oui, de se sentir accompagnée, de ne pas se sentir ouais. toute seule face à son poney qui a un trou, ouais. un trou dans l'encolure.
Oui, ouais, tout à fait.
Et du coup, tu as su si c'était en lien directement, enfin, si c'était en lien avec l'injection ou pas ? Ils t'ont donné le résultat, on va dire.
On n'a jamais eu de réponse concrète sur le pourquoi du comment.
Personne ne t'a jamais dit si c'est à cause de ce vaccin ou quelque chose comme ça.
Ça, ouais, ça reste hypothétique.
Ouais.
Disons que c'est l'hypothèse la plus probable, mais on n'a aujourd'hui aucune preuve, j'ai envie de dire tangible, scientifique, que c'était ça. Voilà. Donc.
Alors, moi, je voulais juste faire une petite digression là-dessus, mais il est possible, en fait, de faire les injections de vaccins autre part que dans l'encolure.
Ouais.
Et moi, mon vétérinaire, en fait, fait les injections dans le poitrail parce que, justement, s'il y a un abcès, s'il y a un abcès qui se fait, c'est beaucoup plus facile, justement, à drainer et à vider l'abcès et à en prendre soin après,
ouais.
vu qu'il y a la gravité. La gravité,
oui, oui.
Et à vider l'abcès.
Bah oui, et puis je rebondis là-dessus parce que du coup c'est ce qu'on a fait cette année, parce que je l'ai quand même fait vacciner, et on l'a fait effectivement au poitrail, et cette année on n'a pas eu de soucis.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un peu moins de masse musculaire au niveau du poitrail, donc ça permet d'avoir moins d'impact sur le muscle.
Oui, ouais, ouais.
Oui, et on peut aussi le faire dans la fesse.
Ouais, j'en ai entendu mais parler bon. Aussi, mais voilà, si on peut éviter...
Moi, j'ai eu une fois des injections et du coup des injections à faire en intramusculaire. Mon vétérinaire m'a dit bah, poitrail ou fesses. Bah, ouais. J'ai à peine approché l'aiguille des fesses de mon cheval qui m'a dit n'ose même pas. En tout cas, c'est possible de le faire dans le poitrail et ça se fait très facilement. On peut demander au vétérinaire aussi de le faire dans le poitrail.
Ouais, et ça, j'aurais bien aimé le savoir aussi à l'époque, parce que c'est vrai que j'avais toujours vu les chevaux se faire vacciner à l'encolure et je m'étais jamais posé la question de est-ce qu'on peut faire un point d'injection ailleurs, en fait. Et voilà.
Oui, c'est vrai qu'on se pose pas la question depuis, on va dire, grandi en club, quand on a évolué en club, bah, ce qu'on voit, c'est dans l'encolure.
Ouais.
Et alors que dans le poitrail, on gêne beaucoup moins le cheval, même si, comme dit, il a du mal à plier la tête gauche-droite. Bon, bah là, si on ne le fait pas dans l'encolure, il n'a pas de difficulté à bouger la tête gauche-droite, quoi. Ouais, donc du coup, ok, rentré à la maison. Donc en fait, on était quoi là? On était en avril ou mai, quelque chose comme ça?
Oui, on était en avril à peu près, ouais. C'est ça.
C'était en avril donc, de l'année dernière, donc avril 2022. Donc ok, rentré à la maison, t'as des gros soins à faire, mais t'as veto. T'as montré comment les faire et t'accompagne pour les faire. Enfin, t'accompagne à distance, on va dire, par SMS pour les faire. Et comment ça s'est passé, du coup, après est-ce qu'il a pu rebaisser la tête directement?
Alors, en fait, ouais, il a recommencé à manger facilement une fois l'abcès ouvert.
D'accord.
Ouais, je me rappelle l'avoir vu à la clinique 2-3 jours après. Il était déjà en train de remanger le foin au sol, il n'y avait pas de souci. Donc ça, c'était déjà un bon point. Il a mis un peu de temps à se rerouler, par contre.
Ah ouais?
Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, il devait avoir des douleurs qui le bloquaient. Enfin, après, en même temps, quand t'as un trou dans l'encolure, peut-être que...
Peut-être voilà. Que ça fait un peu mal.
Voilà, je pense. Donc, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Il avait vraiment une bonne énergie, en plus. Ça faisait plaisir à revoir, parce qu'il n'avait plus autant d'énergie, forcément, avec son... son abcès sur l'encolure. Et oui, il reprenait bien. Je le voyais reprendre vie. Donc ça, c'était bien.
Ouais, ça a été relativement instantané comme évolution.
Oui, 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 ça a été assez rapide. Et puis finalement, même la cicatrisation, tout le monde était assez ébahi de la vitesse à laquelle il cicatrisait facilement.
D'accord, donc tes soins n'ont pas été... tu n'as pas eu de complications à faire tes soins après.
Non, j'ai pas eu de soucis particuliers sur la cicatrisation. Donc ça, c'était déjà une bonne chose parce que j'avais vraiment, vraiment peur que ça bourgeonne, qu'il y ait des complications et qu'on reparte sur un schéma complexe.
Oui, parce que ce qui peut se passer dans des cas de très grosses plaies comme ça, c'est que en fait, ça se referme trop vite superficiellement et ça refait un abcès. Ou que la cicatrisation se fasse de manière anarchique et donc qu'on ait du muscle qui soit non fonctionnel. Ouais. Donc toi, tu n'as pas eu ça, donc ton suivi par ta première vétérinaire a été bon.
Oui, oui, oui.
Et après, comment s'est passé? Parce que on se dit quand même, il a eu un gros trou dans le poitrail. Comment ça se passe pour le refaire bouger? Comment s'est passé quand tu l'as remis au travail? Est-ce qu'il bougeait normalement?
Alors oui, moi j'ai... C'est assez compliqué à dire s'il rebougeait normalement. Il n'a pas eu de boiterie particulière.
Ouais.
Après, c'est vrai que le cheval que j'ai retrouvé dans son déplacement, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé à pied, notamment pour avoir une vision globale de mon cheval et de sa locomotion, c'est vrai que je le trouvais un peu moins délié, un petit peu plus...
C'est vrai que le balancier de la tête est très important pour le lever d'antérieur aussi.
Ouais.
Donc on pourrait se dire que s'il y a eu un gros impact musculaire, du coup il arrive peut-être un peu moins à lever ses antérieurs, ce qui peut poser des problèmes.
Ouais. Il y a de ça. Il est retombé beaucoup sur les épaules.
D'accord.
Chose qu'on avait travaillé pendant longtemps et qui est revenu finalement suite à l'opération. Mais je me suis pas plus inquiétée que ça. Je me suis dit, c'est pas grave, faut lui laisser le temps de retrouver la musculature qu'il avait perdue.
Oui, parce que en plus d'avoir perdu genre physiquement de la musculature parce qu'ils lui ont coupé, en plus du coup, il a eu quand même 2-3 mois d'arrêt je pense en boxe ou à beaucoup moins bouger quoi.
Ouais, il sortait toujours tous les matins.
D'accord.
Mais il avait plus l'activité physique qu'il avait avant. Avant, je le montais 3 fois par semaine. Donc là, on est passé de 3 fois par semaine montée à plus grand chose, peut-être une petite liberté de temps en temps, parce qu'au début, j'ai beaucoup bossé en liberté pour justement lui laisser la possibilité de bouger comme il le sentait, sans contrainte, pour qu'il me montre ce qui lui allait, ce qui lui allait pas. Et après, petit à petit, j'ai repris la longe, j'ai fait aussi des longues graines encadrées avec ma coach. Et c'est comme ça qu'on a récupéré un petit peu de travail postural et musculaire pour petit à petit le ramener vers une condition physique qui lui permettrait de me reporter sur son dos correctement.
Donc, tu n'as pas monté pendant longtemps. Est-ce que tu remontes là, du coup?
Ouais, là, ça fait... 3-4 mois que je remonte progressivement, mais j'ai l'impression que c'est un réapprentissage pour tous les deux parce que finalement les conditions du travail en carrière montée, on les connaît plus trop. C'est comme si on avait un petit peu oublié comment ça se passait, donc lui c'est plus sur le côté émotionnel qu'il a du mal à gérer, et comme on est mutuellement des éponges, c'est plus compliqué de reprendre le boulot monté parce qu'on a été habitué à être à pied. C'est pas
parce
la
que
même...
du coup, vous avez été, quand tu me dis, ça fait 3-4 mois, donc en fait, c'est février, donc vous avez été un an sans monter.
Ouais, à peu près, ouais. Je montais, on va dire, sporadiquement, comme ça, je faisais 3 tours de carrière au pas, peut-être un peu au trot, reine longue, mais du travail sérieux, on n'en faisait plus.
Ouais, donc du coup, pour reconstruire en fait toute ta musculature pour qu'il soit capable de te porter, ça t'a pris 7-8 mois, quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais, ouais.
Et est-ce que tu as mis en place d'autres choses que le travail pour l'aider à se muscler?
Alors, pour l'aider à se muscler concrètement, non.
Pour l'aider à être mieux dans ses muscles.
Ouais, être mieux dans son corps, oui. Je travaille en collaboration avec Delphine. Qui est masseuse et qui est dans mon coin, qui est en Rhône-Alpes. Et du coup, elle vient à peu près tous les 2 mois faire de la massothérapie pour hockey.
Dans l'objectif de l'aider dans ses muscles de l'encolure, vraiment axé sur l'abcès, du coup?
Alors, c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal concentré sur cette zone-là. mais après elle fait un travail plutôt global, mais oui, c'est en fait c'est vraiment un point d'attention qu'elle a au niveau de l'encolure d'hoquet vu ses antécédents.
Bien évidemment qu'après il a certainement dû compenser dans d'autres parties de son corps, mais le suivi de massage, tu l'avais pris pour suite à suite au curage de l'abcès, quoi.
Ouais, dans cette optique-là, je me suis dit que vraiment ça pouvait être très intéressant.
Donc du coup, tu as eu, si on fait un peu le résumé de ton parcours, pour t'aider directement sur l'abcès, tu as fait appel à deux professionnels, à deux vétérinaires qui ont collaboré. La première vétérinaire qui t'a renvoyé vers la clinique, qui a fait l'opération, et puis ensuite c'est ta vétérinaire traitante, on pourrait dire, ta vétérinaire habituelle, qui t'a aidé à faire le suivi post-opératoire, le nettoyage, les pansements, etc. Et après, pour la remise en route de hoquet, pour l'aider à redécouvrir son corps et être bien dans son corps, t'as aussi fait appel à deux professionnels, mais de professions différentes. Donc ta coach et Delphine pour le massage.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu as tout bien résumé.
Donc on est sur une bonne collaboration entre professionnels avec toi qui a servi, qui sert d'intermédiaire en fait.
Oui, et franchement c'est quelque chose que je trouve vraiment bien et qui devrait être entre guillemets plus récurrent, que les différents corps de métier s'associent et même les professionnels et confrères entre eux s'associent parce que on en parlait un petit peu avant. Chaque professionnel a aussi ses spécialités, donc je pense que les uns peuvent aider les autres même dans un même métier finalement et pour aller vers un même objectif qui est le bien-être du cheval et son intégrité physique.
Oui, parce que ta première vétérinaire a délégué volontairement à la clinique, la clinique a redélégué involontairement à ta première vétérinaire pour assurer le suivi post-opératoire.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est ultra intéressant comme témoignage de se dire, déjà, les abcès suite, sous hypothèse que ça vient du vaccin, ça existe. Ce qu'on peut faire, c'est du coup déplacer le point d'injection du vaccin pour que, au cas où il y a un abcès, on puisse le drainer facilement. Parce que le vaccin de la grippe, il reste obligatoire tous les ans. Le tétanos, c'est tous les 3 ans.
Ouais.
Et la rhino, je ne sais pas.
Rhino, je crois qu'elle est obligatoire si tu ne sors pas en concours ou quelque chose comme ça.
Ouais, moi je sais que je ne vaccine pas la rhino parce que ça se porte pas, enfin on n'est pas dans des conditions où il pourrait être
exposé
en contact avec la rhino. Ouais. Mm. C'est vrai que la grippe reste obligatoire quand on vit en société équine.
Oui.
Le tétanos est très très vivement recommandé, mais le tétanos on n'est pas obligé de le faire tous les ans. Et du coup, comment va hoquet aujourd'hui maintenant que ça fait du coup presque un an et demi que toutes ces aventures se sont passées, que ça fait 4 mois que tu as repris un travail monté, comment ça se passe du coup aujourd'hui avec hoquet et comment ça se passe pour toi? Est-ce que toi, maintenant, tu le vois différemment? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Enfin, comment émotionnellement tu t'en sors de cette histoire?
Hoquet va très très bien. Donc ça c'est déjà une très bonne chose, c'est qu'il va très bien, il va tellement bien que sur le plan physique et même si on peut dire ça comme ça, que moi j'arrive pas à le suivre physiquement.
D'accord.
Parce que en fait, tu vois, c'est là qu'on se rend encore plus compte que l'équitation c'est un sport, c'est que comme je n'ai pas monté, j'ai perdu aussi énormément de muscles et même un peu d'équilibre, je trouve. Et finalement, une fois remise en selle, parce que j'avais pas encore repris le sport à un moment donné, je me sentais plus du tout à ma place. Je me sentais pas du tout en sécurité en selle. C'est pour ça que j'ai repris le sport, mais à côté.
De la musculation, quelque chose comme ça.
Muscu, yoga, tous ces trucs-là pour essayer de retrouver un peu de condition physique parce que j'arrivais pas à suivre mon cheval qui avait, lui, très bien récupéré. Donc, voilà, on est encore sur ce point de trouver un nouvel équilibre entre guillemets tous les deux dans le travail monté, mais ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Et si je devais changer quelque chose, si je retombais dans cette situation-là, par exemple, je pense que je ferais en sorte de plus rapidement contacter un autre vétérinaire pour travailler en collaboration avec ma vétérinaire, on va dire très tendre, comme tu l'as si bien dit, parce que je pense que on aurait peut-être évité et quelques frais et aussi entre guillemets une perte de temps. On va dire ça comme ça, parce que ça a quand même duré un bon bout de temps. Et si j'avais pu éviter quelques souffrances à mon cheval, je l'aurais fait.
Et ouais, donc t'aurais demandé un second avis médical assez rapidement.
Ouais. Et peut-être que j'aurais pas du tout hésité à justement aller vers cette clinique qui avait effectivement plus de moyens. Certes,
oui,
qui
parce que c'est une clinique.
Voilà, ça m'aurait peut-être coûté pour sûr plus cher, même si on avait découvert que c'était finalement pas grand-chose et que peut-être il y aurait pas eu besoin d'opérer, mais au moins on aurait trouvé peut-être une solution plus rapidement. Je sais pas. Voilà.
Ça, tu le sauras pas, et on va se dire que bon, la prochaine fois que tu seras confronté à quelque chose de similaire, bon, normalement, si t'es reconfronté à un abcès, tu sauras quoi faire.
Oui. Voilà. Ah, oui. Ça, c'est sûr.
Mais si c'est quelque chose de similaire, ce serait de demander un deuxième avis médical plus tôt.
Ouais, c'est ça.
Non, bah, ça fait une bonne leçon, ça fait une bonne leçon à tirer de faire collaborer les professionnels de santé.
Oui. Oui, je pense. Je pense vraiment qu'on a tout à y gagner quand on suit un animal. Finalement, c'est un peu comme les humains. Les humains, ils ont des dossiers médicaux.
Oui, c'est vrai.
Les professionnels de santé peuvent avoir accès aux comptes rendus des uns des autres et puis prendre des décisions adéquates en fonction de ce qui a été trouvé. Et je comprends pas pourquoi, dans le cheval, c'est si compliqué de lier finalement tous ces professionnels de santé ensemble pour qu'il y ait un travail plus holistique.
Et c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir faire un carnet de santé que tous les professionnels se partageraient.
Ouais. Ouais.
Bah écoute, on va laisser aux gens qui écoutent ce podcast, on va laisser aux auditrices, peut-être qu'il y en a une qui aura l'idée de faire un carnet de santé virtuel. On va soumettre à cette idée de business.
Ouais, je crois que j'en avais déjà entendu parler. De ce que j'ai entendu, c'était en discussion, mais je saurais pas te dire si ça va vraiment exister ou pas. Mais moi, perso, je touche du bois.
Perso, ça te plairait bien.
Ouais.
Bah écoute, ça fait une bonne idée, une bonne conclusion pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé pour OK et toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Eh ben, moi, j'ai juste envie de te remercier de m'avoir donné la parole sur le sujet. Et voilà. Et je souhaite à tout le monde de ne pas vivre cette situation-là. Mais bon.
Et si vous vivez cette situation-là, grâce à toi, ils sauront comment faire.
J'espère. Je leur souhaite.
C'était l'objectif de mettre en lumière un peu cette pathologie qui est pourtant courante. Enfin, qui arrive souvent, ça arrive quand même très souvent qu'un cheval ait une gonfle après le vaccin et qu'en fait, on pourrait l'éviter assez facilement. On pourrait la simplifier assez facilement. Mm. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton échange.
Ben, merci et, encore à toi.
Et du coup, je te souhaite une bonne journée et je souhaite une bonne journée à toutes les auditrices.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmures Équins. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmures Équins. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt !